Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 4, chapitre 10. Fuite de Luther, admiration, désir de Luther, le légat à l'électeur, l'électeur au légat, prospérité de l'université. Luther continuait avec son guide à fuir loin d'Augsbourg. Il pressait son cheval et le faisait aller aussi vite que le permettaient les forces du pauvre animal. Il se rappelait la fuite réelle ou supposée de Jean Hus, la manière dont on l'atteignit et l'assertion de ses adversaires qui prétendirent que Hus, ayant par cette fuite annulé le sauf-conduit de l'empereur, on avait eu le droit de le condamner aux flammes. Cependant, ses inquiétudes ne firent que traverser le cœur de Luther. Sorti de la ville où il a passé 10 jours sous la main terrible de Rome, qui a déjà écrasé tant de milliers de témoins de la vérité et fait rejaillir autour d'elle tant de sang, maintenant qu'il est libre, qu'il respire l'air pur des champs, qu'il traverse les villages et les campagnes, et qu'il se voit admirablement délivré par le bras du Seigneur, toute son âme bénit l'Éternel. C'est bien lui qui peut dire à cette heure « Notre âme est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet a été rompu et nous sommes échappés. Notre aide soit au nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 124, versets 2 à 8. Le cœur de Luther est ainsi rempli de joie, mais ses pensées se reportent aussi sur Devio. Le cardinal, se dit-il, aurait aimé m'avoir entre ses mains et m'envoyer à Rome. Il est sans doute chagrin que je lui ai échappé. Il s'imaginait qu'il était maître de moi à Augsbourg. Il croyait m'avoir, mais il tenait l'anguille par la queue. N'est-ce pas une honte que ces gens m'estiment à un si haut prix? Il donnerait plusieurs écus pour m'avoir, tandis que notre Seigneur Jésus-Christ a été vendu à peine 30 pièces d'argent. Luther fit ce premier jour 14 lieues. Le soir, arrivé à l'auberge où il voulait passer la nuit, il était si fatigué, son cheval avait un trot très dur, nous dit un historien, que, descendu de cheval, il ne put se tenir debout et il s'étendit sur la paille. Il goûta néanmoins quelque repos. Le lendemain, il continua son voyage. Il trouva Nuremberg Staupitz qui y visitait les couvents de son ordre. Ce fut dans cette ville qu'il vit pour la première fois le bref que le pape avait envoyé à Cajetan à son sujet. Il en fut indigné et il est bien probable que s'il avait pu lire ce bref avant son départ de Wittenberg, il n'eût jamais comparu devant le cardinal. « Il est impossible de croire, dit-il, que quelque chose de si monstrueux soit émané d'un souverain pontife. » Partout sur la route, Luther était l'objet de l'intérêt général. Il n'avait cédé en rien. Une telle victoire, remportée par un moine mendiant sur un représentant de Rome, remplissait d'admiration tous les cœurs. L'Allemagne semblait vengée des mépris de l'Italie. La parole éternelle a été plus honorée que la parole du pape. Cette vaste puissance qui, depuis tant de siècles, dominait le monde, a reçu un formidable échec. La marche de Luther fut un triomphe. On s'applaudissait de l'opiniâtreté de Rome, dans l'espoir qu'elle amènerait sa chute. Si elle n'avait pas voulu conserver des gains honteux, si elle avait été assez sage pour ne pas mépriser les Allemands, si elle avait réformé de criants abus, peut-être, selon les vues humaines, tout fût-il rentré dans cet état de mort duquel Luther s'était réveillé. Mais la papauté ne veut pas céder, et le docteur se verra contraint d'amener à la lumière bien d'autres erreurs et d'avancer dans la connaissance et dans la manifestation de la vérité. Luther arriva le 26 octobre à Grafenthal, situé à l'extrémité des forêts de la Thuringe. Il y rencontra le comte Albert de Mansfeld, le même qui l'avait si fort dissuadé de se rendre à Augsbourg. Le comte rit beaucoup en voyant son singulier équipage. Il s'empara de lui et l'obligea à devenir son hôte. Bientôt Luther se remit en route. Il se hâtait, désirant être à Wittenberg le 31 octobre, dans la pensée que l'électeur s'y trouverait pour la fête de tous les saints et qu'il pourrait l'y voir. Le bref qu'il avait reçu à Nuremberg lui avait révélé tout le danger de sa situation. En effet, déjà condamné à Rome, il ne pouvait espérer ni de demeurer à Wittenberg, ni d'obtenir un asile dans un couvent, ni de se trouver quelque autre part en paix et en sûreté. La protection de l'électeur pourrait peut-être le défendre, mais il était loin d'en être assuré. Il ne pouvait plus rien attendre des deux amis qu'il avait eus jusqu'alors à la cour de ce prince. Staupitz avait perdu la faveur dont il avait longtemps joui et quitté la Saxe. Spalatin était aimé de Frédéric, mais il n'avait pas sur lui une grande influence. L'électeur lui-même ne connaissait pas assez la doctrine de l'Évangile pour s'exposer à cause d'elle à des périls manifestes. Cependant, Luther pensa qu'il n'avait rien de mieux à faire que de retourner à Wittenberg et d'y attendre ce que le Dieu éternel et miséricordieux déciderait de lui. Si, comme c'était la pensée de plusieurs, on le laissait tranquille, il voulait se donner tout entier à l'étude et à l'enseignement de la jeunesse. Luther fut de retour à Wittenberg le 30 octobre. Il s'était hâté inutilement. Ni l'électeur, ni Spalatin n'étaient venus pour la fête. Ses amis furent tout joyeux en le revoyant parmi eux. Il s'empressa d'annoncer le même jour son arrivée à Spalatin. « Je suis revenu aujourd'hui à Wittenberg, sain et sauf, par la grâce de Dieu, lui dit-il. Mais combien de temps j'y resterai, c'est ce que j'ignore. Je suis rempli de joie et de paix, en sorte que je m'étonne fort que l'épreuve que j'endure puisse paraître si grande à tant de grands personnages. » De Viau n'avait pas attendu longtemps après le départ de Luther pour exhaler auprès de l'électeur toute son indignation. Sa lettre respire la vengeance. Il rend compte à Frédéric de la conférence avec un air de confiance. « Puisque le frère Martin, dit-il en terminant, ne peut être amené par des voies paternelles à reconnaître son erreur et à demeurer fidèle à l'Église catholique, je prie votre Altesse de l'envoyer à Rome ou de le chasser de ses états. Sachez bien que cette affaire difficile et méchante et pleine de venin ne peut durer longtemps encore, car dès que j'aurai fait connaître à notre très saint Seigneur tant de ruses et de malices, on en aura bientôt fini. » Dans un post-scriptum écrit de sa propre main, le cardinal sollicite l'électeur de ne pas souiller honteusement son honneur et celui de ses illustres ancêtres pour un misérable petit frère. Jamais peut-être l'âme de Luther ne fut remplie d'une plus noble indignation que lorsqu'il lut la copie de cette lettre que l'électeur lui envoya. Le sentiment des souffrances qu'il est destiné à endurer, le prix de la vérité pour laquelle il combat, le mépris que lui inspire la conduite du légat de Rome remplissent à la fois son cœur. Sa réponse, écrite dans cette agitation d'âme, est pleine de courage, de cette élévation, de cette foi qu'on retrouve toujours en lui dans les époques les plus difficiles de sa vie. Il rend compte à son tour de la conférence d'Augsbourg. Il expose ensuite la conduite du cardinal, puis il continue ainsi. « Je voudrais répondre au légat à la place de l'électeur. « Prouve que tu parles avec science, lui dirai-je, qu'on couche par écrit toute l'affaire. Alors j'enverrai le frère Martin à Rome, ou bien je le ferai moi-même saisir et mettre à mort. Je prendrai soin de ma conscience et de mon honneur, et je ne permettrai pas qu'aucune tâche vienne souiller ma gloire. Mais aussi longtemps que ta science certaine fuit la lumière et ne se fait connaître que par des clameurs, je ne puis ajouter foi aux ténèbres. C'est ainsi que je voudrais répondre, très excellent prince. » Que le révérend légat ou le pape lui-même spécifie par écrit mes erreurs, qu'ils exposent leurs raisons, qu'ils m'instruisent, moi qui désire être instruit, qui le demande, qui le veut, qui l'attend tellement qu'un Turc même ne refuserait pas de le faire. Si je ne me rétracte pas et ne me condamne pas, quand on m'aura prouvé que les passages que j'ai cités doivent être compris autrement que je ne les fais, alors, ô très excellent électeur, que votre Altesse soit la première à me poursuivre et à me chasser, que l'université me repousse et m'accable de sa colère. Il y a plus, et j'en prends à témoin le ciel et la terre, que le Seigneur Jésus-Christ me rejette et me condamne. Les paroles que je dis ne me sont pas dictées par une présomption vaine, mais par une inébranlable conviction. Je veux que le Seigneur Dieu me retire sa grâce et que toute créature de Dieu me refuse sa faveur si lorsqu'on m'aura montré une meilleure doctrine, je ne l'embrasse pas. S'il me méprise trop à cause de la bassesse de mon état, moi, pauvre petit frère mendiant, et s'il refuse de m'instruire dans le chemin de la vérité, que votre Altesse prie le légat de lui indiquer par écrit en quoi j'ai erré. Et s'il refuse cette faveur à votre Altesse même, qu'ils écrivent leurs pensées, soit à sa majesté impériale, soit à quelque archevêque de l'Allemagne. Que dois-je, que puis-je dire de plus? Que votre Altesse écoute la voix de sa conscience et de son honneur, et ne m'envoie pas à Rome. Aucun homme ne peut vous le commander, car il est impossible que je sois en sûreté dans Rome. Le pape lui-même n'y est pas en sûreté. Ce serait vous ordonner de trahir le sang d'un chrétien. Ils y ont du papier et des plumes et de l'encre. Ils y ont aussi des notaires en nombre infini. Il aurait facile d'écrire en quoi et pourquoi j'ai erré. Absent, il en coûtera moins de m'instruire par écrit que présent de me faire mourir par ruse. Je me résigne à l'exil. Mes adversaires me tendent de tous les côtés des pièges, en sorte que je ne puis nulle part vivre en sûreté. Afin qu'il ne vous arrive aucun mal à mon sujet, j'abandonne au nom de Dieu vos états. Je veux aller où le Dieu éternel et miséricordieux veut m'avoir, qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Ainsi donc, sérénissimes et lecteurs, je vous salue avec vénération, je vous recommande au Dieu éternel et je vous rends d'immortelles actions de grâce pour tous vos bienfaits envers moi. Quel que soit le peuple au milieu duquel je demeurerai à l'avenir, je me souviendrai éternellement de vous et je prierai sans cesse avec reconnaissance pour votre bonheur et pour celui des vôtres. Je suis encore, grâce à Dieu, plein de joie et je le bénis de ce que Christ, le Fils de Dieu, me juge digne de souffrir dans une cause si sainte. Qu'il garde éternellement votre Altesse illustre. Amen. Cette lettre, si pleine de vérité, fit une profonde impression sur les lecteurs. Il fut ébranlé par une lettre très éloquente, dit Mainbourg. Jamais il n'eut pensé à livrer un innocent entre les mains de Rome. Peut-être eût-il invité Luther à se tenir quelque temps caché, mais il ne voulut pas même avoir l'apparence de céder en quelque manière aux menaces du légat. Il écrivit à son conseiller Pfeffinger, qui se trouvait auprès de l'empereur, de faire connaître à ce prince le véritable état des choses et de le supplier d'écrire à Rome qu'on mit fin à cette affaire ou du moins qu'on la fit juger en Allemagne par des juges impartiaux. Quelques jours après, l'électeur répondit au légat. « Puisque le docteur Martin apparut devant vous à Augsbourg, vous devez être satisfait. Nous ne nous étions pas attendus à ce que, sans l'avoir convaincu, vous prétendriez le contraindre à se rétracter. Aucun des savants qui se trouvent dans nos principautés ne nous a dit que la doctrine de Martin fût impie, antichrétienne et hérétique. Le prince refuse ensuite d'envoyer Luther à Rome et de le chasser de ses états. Cette lettre qui fut communiquée à Luther le remplit de joie. « Bon Dieu, écrivit-il à Spalatin, avec quelle joie je l'ai lu et relu. Je sais quelle confiance on peut avoir en ces paroles, pleines à la fois d'une force et d'une modestie si admirables. Je crains que les Romains ne comprennent pas tout ce qu'elles signifient, mais ils comprendront du moins que ce qu'ils croyaient déjà fini n'est pas même commencé. Veuillez présenter au prince mes actions de grâce. » Il est étrange que celui, c'est-à-dire Devio, qui, il y a peu de temps encore, était moine mendiant, comme moi, ne craigne pas d'aborder sans respect les princes les plus puissants, de les interpeller, de les menacer, de leur commander et de les traiter avec un inconcevable orgueil. Qu'il apprenne que la puissance temporelle est de Dieu et qu'il n'est pas permis d'en fouler aux pieds la gloire. Ce qui avait sans doute encouragé Frédéric à répondre au légat sur un ton auquel celui-ci ne s'était pas attendu, c'était une lettre que l'université de Wittenberg lui avait adressée. Elle avait de bonnes raisons pour se prononcer en faveur du docteur, car elle florissait de plus en plus et elle éclipsait toutes les autres écoles. Une foule d'étudiants y accourait de toutes les parties de l'Allemagne pour entendre cet homme extraordinaire dont les enseignements paraissaient ouvrir à la religion et à la science une ère nouvelle. Ces jeunes gens venus de toutes les provinces s'arrêtaient au moment où ils découvraient dans le lointain les clochers de Wittenberg. Ils élevaient alors leurs mains vers le ciel et ils louaient Dieu de ce qu'il faisait luire de cette ville, comme autrefois de Sion, la lumière de la vérité, et l'envoyaient jusqu'aux contrées les plus éloignées. Une vie, une activité inconnue jusque-là animait l'université. « On s'excite ici à l'étude, à la manière des fourmis », écrivait Luther. Livre 4, chapitre 11. Pensée de départ, adieu à l'Église, moment critique, délivrance, courage de Luther, mécontentement à Rome, bulle, appel à un concile. Luther, pensant qu'il pouvait être bientôt chassé de l'Allemagne, s'occupait de la publication des actes de la conférence d'Augsbourg. Il voulait que ces actes demeurassent comme un témoignage de la lutte entre Rome et lui. Il voyait l'orage près d'éclater, mais il ne le craignait pas. Il attendait de jour en jour les malédictions de Rome, et il disposait et ordonnait tout afin d'être prêt lorsqu'elles arriveraient. « Ayant retroussé ma robe et ceint mes reins, disait-il, je suis prêt à partir comme Abraham sans savoir où j'irai, ou plutôt sachant bien où, puisque Dieu est toute part. » Il avait le dessein de laisser derrière lui une lettre d'adieu. « Et alors le courage, écrivit-il à Spalatin, de lire la lettre d'un homme maudit et excommunié. » Ses amis étaient remplis pour lui de crainte et de sollicitude. Ils le suppliaient de se constituer prisonnier entre les mains de l'électeur, afin que ce prince le fît garder sûrement quelque part. Ses ennemis ne pouvaient comprendre ce qui lui donnait tant d'assurance. Un jour, on s'entretenait de lui à la cour de l'évêque de Brandebourg et on demandait sur quel appui il pouvait se fonder. « C'est Erasme, disait-on, c'est Capiton, ce sont d'autres hommes savants qui sont sa confiance. Non, non, reprit l'évêque, le pape s'inquiéterait fort peu de ces gens-là. C'est sur l'université de Wittenberg et sur le duc de Saxe qu'il se repose. » Ainsi, les uns et les autres ignoraient quelle était la forteresse où s'était réfugié le réformateur. Des pensées de départ traversaient l'esprit de Luther. Ce n'était pas la crainte des dangers qui les faisait naître, mais la prévision des obstacles sans cesse renaissants que trouverait en Allemagne la libre profession de la vérité. « Si je demeure ici, disait-il, la liberté de dire et d'écrire bien des choses me sera ravie. Si je pars, j'épancherai librement les pensées de mon cœur et j'offrirai ma vie à Jésus-Christ. » La France était le pays où Luther espérait pouvoir annoncer la vérité sans entrave. La liberté dont jouissaient les docteurs et l'université de Paris lui paraissait digne d'envie. Il était d'ailleurs d'accord avec eux sur beaucoup de points. Que fût-il arrivé s'il eût été transporté de Wittenberg en France ? La Réformation s'y fut-elle établie comme en Allemagne ? La puissance de Rome y eût-elle été détrônée et la France, qui était destinée à voir les principes hiérarchiques de Rome et les principes destructifs d'une philosophie irreligieuse se combattre longtemps dans son sein, fût-elle devenue un grand foyer de lumière évangélique ? Il est inutile de faire ce sujet de vaines suppositions, mais peut-être Luther à Paris eût-il changé quelque chose aux destinées de l'Europe et de la France. L'âme de Luther était vivement émue. Il prêchait souvent dans l'église de la ville, à la place de Simon Eyens Spontanus, pasteur de Wittenberg, qui était presque toujours malade. Il crut devoir à toute aventure prendre congé de ce peuple auquel il avait si souvent annoncé le salut. « Je suis, dit-il un jour en chaire, un prédicateur bien peu stable et bien incertain. Que de fois déjà ne suis-je pas parti tout à coup sans vous avoir salué ? Si ce cas se représentait encore et que je ne dusse pas revenir, recevez ici mes adieux. » Puis, ayant ajouté quelques autres mots, il finit en disant avec modération et avec douceur, « Je vous avertis afin de ne pas vous laisser épouvanter. Si les censures papales se déchaînent sur moi avec fureur, ne l'imputez pas au pape et n'en veuillez pas de mal, ni à lui, ni à quelque mortel que ce soit, mais remettez toutes choses à Dieu. » Le moment parut enfin arrivé. Le prince fit entendre à Luther qu'il désirait le voir s'éloigner de Wittenberg. Les volontés de l'électeur lui étaient trop sacrées pour qu'il ne s'empressât pas de s'y conformer. Il fit donc ses préparatifs de départ, sans trop savoir de quel côté il dirigerait ses pas. Il voulut pourtant réunir une dernière fois ses amis, et il leur prépara dans ce dessein un repas d'adieu. Assis avec eux à la même table, il jouit encore de leur douce conversation, de leur tendre et craintive amitié. On lui apporta une lettre. Elle vient de la cour. Il l'ouvre et la lit. Son cœur se serre. Elle renferme un nouvel ordre de départ. Le prince lui demande pourquoi il tarde si longtemps à s'éloigner. Son âme fut accablée de tristesse. Cependant, il reprit courage et, relevant la tête, il dit avec fermeté et avec joie, en portant ses regards sur ceux qui l'entouraient, « Père et mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueille. » Il fallait partir. Ses amis étaient émus. Qu'allait-il devenir ? Si le protecteur de Luther le rejette, qui voudra le recevoir ? Et l'Évangile ? et la vérité, et cette œuvre admirable, tout sans doute va tomber avec l'illustre témoin. La Réformation semble ne plus tenir qu'à un fil, et au moment où Luther quittera les murs de Wittenberg, ce fil ne se rompra-t-il pas ? Luther et ses amis parlaient peu, frappés du coup qui atteignait leurs frères, des larmes coulaient de leurs yeux. Mais, quelques instants après, un second message arrive. Luther ouvre la lettre, ne doutant point d'y trouver une sommation nouvelle. Mais, ô main puissante du Seigneur, pour le moment, il est sauvé. Tout a changé d'aspect. Comme le nouvel envoyé du pape espère, lui écrit-on, que tout pourra s'arranger au moyen d'un colloque, restez encore. Que cette heure fût importante, et que fût-il arrivé si Luther, toujours empressé à obéir à la volonté de son prince, eût quitté Wittenberg aussitôt après sa première lettre. Jamais Luther et l'œuvre de la Réformation ne furent plus bas que dans ce moment-là. C'en était fait, semblait-il, de leur destinée. Un instant suffit pour les changer. Parvenu au plus bas degré de sa carrière, le docteur de Wittenberg remonta rapidement et son influence dès lors ne cessa de croître. L'Éternel commande, selon le langage d'un prophète, et ses serviteurs descendent aux abîmes et remontent aux cieux. Spalatin fit appeler Luther à Lichtenberg pour avoir, d'après les ordres de Frédéric, une entrevue avec lui. Ils y parlèrent longtemps de la situation des choses. « Si les censures de Rome arrivent, certainement, dit Luther, je ne demeurerai pas à Wittenberg. Gardez-vous, reprit Spalatin, de trop précipiter votre voyage en France. » Il le quitta en lui disant d'attendre ses avis. « Recommandez seulement mon âme à Christ, disait Luther à ses amis. Je vois que mes adversaires s'affermissent dans le dessein de me perdre, mais Christ m'affermit en même temps dans celui de ne pas leur céder. » Luther publia alors les actes de la conférence d'Augsbourg. Spalatin lui avait écrit de la part de l'électeur de ne point le faire, mais il était trop tard. Le prince, une fois la publication faite, y donna son approbation. « Grand Dieu, disait Luther dans la préface, quel nouveau, quel étonnant crime que de chercher la lumière et la vérité, et surtout dans l'Église, c'est-à-dire dans le royaume de la vérité. Je t'envoie mes actes, écrivait-il à Linck, ils sont plus tranchants que le Seigneur légat ne l'a sans doute espéré, mais ma plume est prête à enfanter de bien plus grandes choses. Je ne sais moi-même d'où me viennent ces pensées. À mon avis, l'affaire n'est pas même commencée. Tant il s'en faut que les grands de Rome puissent déjà en espérer la fin. Je t'enverrai ce que j'ai écrit afin que tu vois si j'ai bien deviné, en croyant que l'antéchrist dont parle saint Paul règne maintenant dans la cour de Rome. Je crois pouvoir démontrer qu'il est pire aujourd'hui que les Turcs eux-mêmes. » De partout revenaient à Luther de sinistres rumeurs. Un de ses amis lui écrivit que le nouvel envoyé de Rome avait reçu l'ordre de se saisir de lui et de le livrer au pape. Un autre lui rapporta qu'étant en voyage, il s'était rencontré quelque part avec un courtisan et que la conversation s'étant engagée sur les affaires qui préoccupaient alors l'Allemagne, celui-ci lui avait déclaré avoir pris l'engagement de remettre Luther entre les mains du souverain pontife. Mais plus leur furie et leur violence augmentent, écrivait le réformateur, moins je tremble. On était à Rome très mécontent de Cajetan. Le dépit qu'on éprouvait de voir échouer cette affaire se porta d'abord sur lui. Les courtisans romains se crurent en droit de lui reprocher d'avoir manqué de cette prudence et de cette finesse qui, à les en croire, devaient être les premières qualités d'un légat et de n'avoir pas su faire plier dans une occasion si importante la roideur de sa théologie scolastique. « C'est à lui qu'est toute la faute, disait-on, sa lourde pédanterie a tout gâté. Pourquoi avoir irrité Luther par des injures et des menaces, au lieu de le ramener par la promesse d'un bon évêché ou même d'un chapeau de cardinal ? Ces mercenaires jugeaient du réformateur d'après eux-mêmes. Cependant, il fallait réparer cette faute. D'un côté, Rome devait se prononcer, de l'autre, elle devait ménager les lecteurs qui pouvaient lui être très utiles pour le choix qu'on allait bientôt être appelé à faire d'un empereur. Comme il était impossible à des ecclésiastiques romains de soupçonner ce qui faisait la force et le courage de Luther, il s'imaginait que les lecteurs étaient beaucoup plus impliqués dans l'affaire qu'ils ne l'étaient réellement. Le pape résolut donc de suivre une autre ligne de conduite. Il fit publier en Allemagne par son légat une bulle dans laquelle il confirmait la doctrine des indulgences, précisément dans les points attaqués, mais où il ne parlait ni de l'électeur ni de Luther. Comme le réformateur avait toujours dit qu'il se soumettrait à la décision de l'Église romaine, le pape pensait qu'il devait maintenant ou tenir sa parole ou se montrer ouvertement perturbateur de la paix de l'Église et contempteur du Saint-Siège apostolique. Dans l'un et dans l'autre cas, le pape semblait n'avoir qu'à gagner. Mais on ne gagne rien à s'opposer avec obstination à la vérité. En vain le pape avait-il menacé de l'excommunication quiconque enseignerait autrement qu'il ne l'ordonnait. La lumière ne s'arrête pas à de tels ordres. Il eût été plus sage de tempérer par certaines restrictions les prétentions des vendeurs d'indulgence. Ce décret de Rome fut donc une nouvelle faute. En légalisant des erreurs criantes, il irrita tous les hommes sages et il rendit impossible le retour de Luther. On crut, dit un historien catholique, grand ennemi de la Réformation, que cette bulle n'avait été faite que pour l'intérêt du pape et des quêteurs qui commençaient à ne plus trouver personne qui leur voulût rien donner pour ces indulgences. Le cardinal de Viau publia le décret à Linz, en Autriche, le 13 décembre 1518. Mais déjà Luther s'était mis à l'abri de ses atteintes. Le 28 novembre, il en avait appelé dans la chapelle du corps de Christ à Wittenberg du pape à un concile général de l'Église. Il prévoyait l'orage qui allait fondre sur lui. Il savait que Dieu seul pouvait le conjurer, mais ce qu'il était lui-même appelé à faire, il le fit. Il devait sans doute quitter Wittenberg. Ne fût-ce même qu'à cause de l'électeur, aussitôt que les malédictions romaines y seraient arrivées. Toutefois, il ne voulait pas abandonner la Saxe et l'Allemagne sans une éclatante protestation. Il la rédigea donc, et afin qu'elle fût prête à être répandue au moment où l'atteindraient les fureurs de Rome, comme il s'exprime, il la fit imprimer sous la condition expresse que le libraire en déposerait chez lui tous les exemplaires. Mais cet homme, avide de gain, les vendit presque tous, tandis que Luther en attendait tranquillement le dépôt. Luther s'en fâcha, mais la chose était faite. Cette protestation hardie se répandit partout. Luther y déclarait de nouveau qu'il n'avait pas l'intention de rien dire contre la Sainte Église, ni contre l'autorité du siège apostolique et du pape bien conseillé. Mais, continue-t-il, attendu que le pape, qui est le vicaire de Dieu sur la terre, peut comme tout autre homme errer, pécher, mentir, et que l'appel à un concile général est le seul moyen de salut contre des actions injustes auxquelles il est impossible de résister, je me vois obligé d'y avoir recours. Voilà donc la Réformation lancée sur un terrain nouveau. Ce n'est plus du pape et de ses résolutions qu'on la fait dépendre, c'est d'un concile universel. Luther s'adresse à toute l'Église, et la voix qui part de la chapelle du corps de Christ doit parcourir tous les troupeaux du Seigneur. Ce n'est pas le courage qui manque au réformateur. Il en donne une preuve nouvelle. Dieu lui manquera-t-il? C'est ce que nous apprendrons les diverses périodes de la Réformation qui doivent encore se dérouler sous nos yeux.